Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce mercredi soir, le coup d'envoi de Soir Info jusqu'à minuit sans aucune interruption pour commenter les grands faits d'actualité autour de Tatiana Renard-Barzac ce soir notamment. Bonsoir chère Tatiana, journaliste politique, Jean-Claude Dacier est parmi nous comme chaque mercredi. Merci d'être là cher Jean-Claude, bonsoir. Merci à Jean-Sébastien Ferjou d'être parmi nous bien sûr aussi. Bonsoir, Karim Abric de la rédaction, bonsoir à vous, bonsoir à Céline Pina qui est avec nous aussi ce soir. C'est un plaisir, politologue, journaliste et puis Yoann Uzaï bien sûr qui fait partie des meubles. Il y a son rond de serviette près de moi, Yoann Uzaï du service politique de CNews. Beaucoup de choses à voir ensemble. Dans 5 minutes, on parlera de cette visite de deux anciens présidents au palais de l'Elysée, Nicolas Sarkozy et François Hollande, autour de la situation en Ukraine reçue par Emmanuel Macron. Mais je voudrais juste prendre les 5 premières minutes pour revenir sur cette polémique à laquelle vous n'avez pas échappé depuis 48 heures. Que dis-je ? Un mélodrame, plutôt, autour de l'affiche officielle des Jeux Olympiques de Paris. On en reparle encore ce soir, parce que l'absence de croix au sommet du Dôme des Invalides et ce drapeau français dans l'œuvre qui n'est pas présent irrite une bonne partie de la classe politique qui accuse l'artiste notamment de wokisme. Et on voulait revenir sur cette séquence parce qu'aujourd'hui, le sénateur LR Roger Karoutchi a interpellé la ministre de l'Éducation nationale. Mais non, elle ne l'est plus, ministre des Jeux Olympiques, Madame Oudéa Castéra. Regardez ce petit échange et puis on en parle quelques instants.
Quelle différence fait votre gouvernement entre une croix et une flèche ?
C'est une interprétation qui se veut joyeuse, qui se veut foisonnante, d'une ville-stade réinventée. C'est tout ça, monsieur le sénateur. Et cette affiche, ça n'est pas une commande d'État. C'est un geste libre. Cette affiche, c'est la France. Cette affiche, c'est les Jeux Olympiques et Paralympiques. Cette affiche, c'est notre liberté. C'est la liberté qu'on aime et celle de nos artistes.
Vous pouvez faire les couleurs que vous voulez. Il y a une croix sur le dôme des Invalides depuis 350 ans. Il y a une croix au sommet de la flèche de Notre-Dame. Aujourd'hui, le wokisme mondialisé veut effacer les symboles de la nation. Les symboles de la nation. Si nous voulons faire évoluer la nation, nous n'avons pas à l'effacer.
Standing ovation de l'hémicycle au Sénat. Jean-Claude Dacier, cette affiche est l'œuvre du wokisme mondialisé. De quel œil la regardez-vous ?
J'irai pas jusque-là sans doute, mais d'abord je le trouve un peu étrange ce dessin. Je trouve qu'on est plus à Disney. Disneyland,
ouais.
Aux États-Unis peut-être qu'à Paris, mais bon, chacun ses goûts. En revanche, bien évidemment, je suis de l'avis de Karoutchi sur la disparition de la croix au sommet des Invalides. Elle y était. Pourquoi l'a-t-il retirée ?
Peut-être parce que l'article 50 de la charte des Jeux Olympiques établit qu'aucune sorte de démonstration ou de propagande politique, religieuse ou raciale, n'est autorisée dans un lieu, site ou autre emplacement olympique. Peut-être est-ce la raison.
Dans ce cas-là, serait-ce les Invalides du tout ?
Serait-ce de la propagande que de dessiner une maison, un immeuble, une tour Eiffel ou autre, d'une façon qui soit relativement fidèle à ce qu'elle est ? Je pense qu'il l'a fait exprès, pour tout dire. Alors, je ne sais pas si c'est un wokiste.
Mais il l'a fait exprès parce qu'il voulait supprimer toute la
religion. Mais il l'a clairement fait exprès. Je trouve qu'il a fait une bêtise. Bon. Pour le reste, on n'aime pas le dessin. Il est en tout cas très, très surprenant, très, très, très flatteur.
Tous les goûts sont dans la nature, comme on dit. Céline Pina, ça ne va pas un peu loin, cette polémique ? Ou au contraire, autre argumentaire, c'est un détail qui a son importance et qui illustre l'évolution négative pour la droite, en l'occurrence, de notre société.
Alors, j'en ai aucune idée parce qu'en fait, je suis trop occupée à chercher Charlie.
Oui, c'est vrai.
Parce que franchement, il est où, Charlie ?
Alors, mais c'est pas Charlie qu'il faut chercher. Je sais pas si vous avez suivi. C'est-à-dire l'image de où est Charlie, on doit chercher la mascotte à des endroits un peu disséminés sur le dessin.
En fait, sincèrement, je trouve que on affronte aujourd'hui des choses extrêmement violentes. Moi, j'ai été très marquée par ce qui s'est passé le 7 octobre. J'ai été très marquée par un certain nombre de choses. Et franchement, cette histoire d'affiche, mais je m'en moque à un point, mais vous n'imaginez pas. Je trouve que c'est un peu de la perte de temps. Alors, peut-être.
Roger Carucci nous a fait perdre du temps aujourd'hui en faisant monter cette polémique jusqu'au Sénat.
Disons qu'en fait, je trouve que ce qu'il dit sur la disparition de la nation, la disparition des symboles sont des choses très fortes et très intéressantes. Je ne suis pas sûre que c'était, disons, le moment et l'objet qui permettait le plus de développer ce discours.
Je rappelle que le drapeau...
Voilà, je ne suis pas très sensible, en tout cas, à toute cette polémique.
Je rappelle que le drapeau japonais ne figurait pas sur l'affiche des Jeux de Tokyo. La bannière brésilienne n'apparaissait pas sur celle des Jeux de Rio. Même chose pour les Jeux de Londres en 2012. Ceux qui déforment cette affiche appellent ça l'universalisme et la charte des Jeux Olympiques. Alors, vous voulez aller un petit peu plus loin, Tatiana, donc je vais vous donner la parole en dernier sur cette question. Jean-Sébastien Ferjou, un petit mot.
Moi, malgré tout, l'esthétique, je la trouve plutôt réussie. Je trouve qu'elle me fait penser à l'exposition universelle, justement au moment où la tour Eiffel a été construite. Vous savez, où sur le champ de Mars, il y avait plein de pavillons avec des architectures un peu excentriques ou orientalistes. Ou bref. Après, je comprends la question qu'a posée Roger Carucci, mais je ne sais pas quelle était l'intention de l'artiste. Si vraiment il ne faut pas représenter de religion, ben dans ce cas-là, ne mettons pas l'église des Invalides.
A priori, il a un cahier des charges, c'est ce que j'essaie de...
Oui, mais Julien, je comprends bien, mais dans ce cas-là, on ne met pas l'église des Invalides, parce qu'on peut enlever la croix, ça reste une église. On peut le tourner dans tous les sens.
Mais les Invalides sont présentes parce que sur l'esplanade, il y aura des épreuves. Ce qui n'est pas le cas à Notre-Dame ou à d'autres églises.
Quoi qu'il en soit, sur le fait d'enlever la représentation, je pense que c'est pour le coup une vision... Là, je parle de la charte même des Jeux Olympiques, mais je suis d'accord avec ce que disait Céline Pina, c'est pas non plus une polémique
qui
s'y attarde à l'infini, mais ça n'a pas de sens d'effacer l'histoire des uns et des autres. Ce qui serait gênant, c'est de faire des Jeux Olympiques à un moment où on veut absolument... prouver la supériorité soit d'une nation, soit d'une religion ou d'une cause politique ou que sais-je encore. Évidemment que l'esprit olympique n'est pas celui-là, mais ça n'est pas effacer la diversité humaine.
Allez, avançons avant de passer à des sujets qui comptent peut-être un petit peu plus. Johan, Karima, très rapidement, et puis un dernier mot, Tatiana.
C'est bien qu'on puisse avoir ce genre de polémique en France, d'y passer beaucoup de temps, je trouve ça bien.
On n'a pas autre chose à faire.
Ça montre qu'on n'a pas d'autres problèmes, que ouais, tout va bien dans ce pays, que voilà, on a du temps à perdre. Je trouve ça plutôt... Il y a un vent d'optimisme qui souffle quand on a...
Toute la droite s'est saisie et a crié au scandale, au sacrilège. Enfin, je veux dire, ça fait deux jours que ça dure et ça continue de monter, Karima.
Non, mais parce que je trouve qu'aujourd'hui, en fait, ça révèle...
Ah, je suis désolé.
J'ai fait court.
Ah, excusez-moi, Yoann.
Ah, ben non, mais vous pouvez faire un peu plus long.
Il a répondu à mon cahier des charges, pour le coup. Merci beaucoup, cher Yoann.
Non, je veux revenir, en fait, sur l'affiche et sur le malaise aussi qu'elle peut susciter. Sur l'affiche, en termes visuels, sur la forme, moi, je trouve que, bon, elle est sympathique, elle est colorée, mais il y a un paradoxe. On nous dit qu'il faut regarder, en fait, c'est dans les détails, il faut aller chercher, il y a des symboles cachés qu'on va retrouver. Mais en même temps, on nous dit non, il y a des symboles cachés qu'il ne faudrait pas voir aussi, vous voyez? Donc, regardez dans le détail, mais pas trop. Et quand on observe certains détails, par exemple, la disparition de la croix, là, finalement, celle-là, il n'aurait pas fallu qu'on la voie. C'était normal qu'elle ne soit pas là. Je veux juste simplement dire que non, moi, je pense pourquoi il y a une telle polémique, c'est que ça révèle quand même un malaise profond aujourd'hui, notamment en France, sur l'expression de certains symboles, que ce soit des symboles historiques, des racines aussi de la France. Oui, un malaise. On a l'impression que pour certains, il faut effacer une partie de son patrimoine, de son histoire, pour être capable d'être accepté, pour être capable, en fait, pour ne pas paraître intolérant. Et je pense que c'est là d'où vient le fameux malaise, c'est cette idée de cet effacement.
En vous écoutant, je regardais précisément cette affiche, mais je vois un drapeau français, en fait. Il y a vous voyez que sur la toute gauche de l'écran, là, vous avez les anneaux olympiques. Vous voyez les anneaux olympiques. Et à gauche des anneaux olympiques, il y a une cocarde bleu, blanc, rouge. Donc le drapeau français est représenté sur cette affiche. N'en déplaise à ceux qui ne l'ont pas vu. Une conclusion, Tatiana Renard-Barzac, avant d'avancer sur un autre sujet.
Je pense d'abord que si on ne voulait pas tous les symboles que comporte la ville lumière qui est Paris, en ce qu'elle en faisait ça dans un stade banal, c'est ce que justement on a voulu éviter en allant le faire dans le cœur de Paris. Mais pour moi, je trouve que ces JO, mauvaise figure, mais je trouve que ça devient vraiment la croix et la bannière sans faire de mauvais jeu de mots, sincèrement.
Oui, sans faire de mauvais jeu de mots, comme vous dites.
Entre cette affiche, où vous avez tout à fait raison, Céline, franchement, moi j'ai vu vraiment le livre que je lis à mon fils, où est Charlie, enfin, c'est vraiment pour moi ça. Deuxièmement, la polémique... au choix.
Mais c'est censé être ludique, c'est pas.
Vous savez, ce matin, la ministre justement des JO a évoqué le jeu des 7 erreurs. Alors moi, je vais vous faire les 7 erreurs. Cette affiche, voilà, on l'aime ou on l'aime pas, c'est vrai qu'il y a un côté Où est Charlie. Deuxièmement.
Vous diriez qu'elle est ratée, cette affiche ?
Moi, je trouve qu'elle est ratée, oui.
Ah bon.
Deuxièmement, le village olympique, certains vous diront qu'il est très moche, d'autres vous diront qu'au JO de Tokyo, les athlètes ont dormi dans des lits en carton. Troisièmement, la polémique sur Aya Nakamura, certains vous diront c'est fabuleux, c'est une artiste populaire. D'autres vont dire, il n'y a pas photo de Jaja, franchement, il n'y a pas moyen, là, c'est pas possible qu'elle chante.
Bravo.
Quatrième chose, pardon, mais j'ai noté les 7 erreurs parce que c'est tellement...
On est à 3, là.
Quatrième cérémonie d'ouverture qui devait être ouverte, populaire, ouverte à tous. Bon, bah, au final, on est passé de 1 million à combien? À 326 000 personnes, dont 222 000 pas gratuits, mais sur invitation
de l'Élysée.
De l'État, de l'Église, des collectivités.
Il y a 220 000 personnes qui vont être invitées par l'Élysée.
Vont être invitées.
Monsieur le Président.
Avec des prix de billets tout à fait exorbitants pour ceux qui auront la chance d'avoir un siège, puisque c'est 2600 euros le siège. En bas de la scène, voilà.
Incroyable.
Il
ne
reste plus que ça, 2600 euros. Donc voilà, pour la cérémonie populaire, on repassera. Ensuite, petite 5, sécurité. Bon, bah, on l'a vu hier avec le discours de Gérald Darmanin, la présentation. 45 000 forces de l'ordre déployées, des drones. Et aujourd'hui, on a déjà exclu 6 fichiers S. Et accessoirement, combien 200. Attends, il y en a combien? Je ne retrouve plus mes chiffres. 6 fichiers S et 25 personnes visées par 2 OQTF, dans les personnes qui s'étaient présentées pour être des volontaires, pour
sortir
de flammes, etc.
D'accord.
Donc, petit souci quand même. Sixième petit problème, la circulation. Comme le disait le préfet Laurent Nunez hier, ça va être la galère dès le 1er juillet. Les ponts vont être fermés au cœur de Paris. Dès le 1er juillet, tenez-vous bien. Deuxièmement, le prix des transports qui explose. Tarif du ticket de métro, 4 euros. Passe journée, 16 euros. Et semaine, 70 euros, le double impasse Navigo. Donc 6, nous en sommes maintenant. Petit 7.
Vite,
petit 7, un gros souci quand même, si vous voulez, c'est que... Non, j'en suis à mon 8, je crois. Bon, je sais plus, je suis perdue. Il y a tellement de choses qui vont pas, je trouve, dans cette histoire. Petit 8, Emmanuel Macron qui promet de se baigner dans la Seine. Chirac nous a fait la même histoire. 4 ans, 8, la même promesse.
Oui, sauf que là, il y a eu des milliards
d'investis. Jamais baigné. Comme disait Chirac, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Voilà, je pense que pour ces JO, c'est
bon,
un peu
c'est bien. Heureusement que c'est pas les Jeux d'hiver, là, parce qu'on les a rhabillés. Non,
mais c'est une grande fête. C'est une grande fête populaire, mais probablement QR code et...
C'est pas une fête ouverte à tous.
Non, mais QR code et justement...
Arrêtez de me descendre des Jeux olympiques. Essayons d'être un tout petit peu...
Non, mais QR code et sélection de ce genre-là, c'est populaire comme dans République populaire de Chine.
On fait du géobashing toute la journée. Cette affiche, elle vous plaît pas, elle est ludique, elle est colorée. OK, la croix, ils auraient pu la laisser, mais je suis pas sûr que ça va être 3 jours de polémique.
Ça vaut pas un mois de polémique.
C'est un événement exceptionnel. Essayons de se réjouir un tout petit peu, je vous en supplie.
Le 11 juillet.
On avance. Qu'est-ce qu'il y a ?
Dis vivement le 26 juillet.
Mais oui, vivement le 26 juillet. Vous serez le premier devant votre télévision et vous serez le premier à essayer d'avoir des places pour aller assister à des épreuves. Parce que c'est exceptionnel de vivre ça. C'est exceptionnel.
C'est fabuleux, mais on peut un peu rire quand même de tous ces découvertes qu'on accumule depuis des mois.
Après ces déclarations controversées, retournons à des sujets qui nous concernent un petit peu plus ou pas d'ailleurs. Après ces déclarations controversées sur la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron s'est entretenu aujourd'hui, ce soir même, avec ses prédécesseurs. Le président de la République a reçu deux ex-chefs d'État, ses deux prédécesseurs, Nicolas Sarkozy et François Hollande, pour échanger avec eux sur la situation en Ukraine. Pourquoi François Hollande et Nicolas Sarkozy étaient-ils donc invités ce soir ? Explication de Thomas Bonnet.
Emmanuel Macron s'est entretenu tour à tour avec François Hollande et Nicolas Sarkozy. C'est d'abord l'ancien président socialiste qui a été reçu à l'Élysée pour aborder évidemment la thématique de l'Ukraine. Et à la sortie, l'ancien président a réitéré son appel pour davantage d'aide pour l'Ukraine, notamment d'un point de vue militaire. Il a également été interrogé sur les propos du chef de l'État et sur un éventuel envoi de troupes au sol. Voilà ce que en dit François Hollande. Moins on en dit, mieux on agit. Il ne faut pas dire ce que l'on fait, mais faire ce que l'on n'a pas dit. Et puis, donc, c'est Nicolas Sarkozy qui a été reçu. Il n'a pas fait de déclaration à l'issue de son entretien avec le président de la République. Ce que l'on peut dire, en tout cas, c'est qu'on est désormais dans une phase de consultation du côté de l'Élysée, puisque ce jeudi, ce sont les patrons des partis politiques qui seront reçus par le chef de l'État dans un format dit de Saint-Denis. Et puis, la semaine prochaine, il y aura un débat suivi d'un vote à la fois à l'Assemblée nationale et au Sénat, toujours sur le sujet de l'Ukraine.
Yoann Uzaï, deux anciens présidents reçus à l'Elysée, l'heure est grave ou l'heure est à la mise en scène présidentielle ?
À n'en pas douter.
J'aime bien vous prendre de court le soir, comme ça, avec ma première question.
À n'en pas douter, je crois que manifestement, quand même, il y a une volonté du chef de l'État de remettre le sujet de l'Ukraine au cœur de l'actualité française pour tenter d'embarrasser le Rassemblement national. Ça me semble assez évident, compte tenu des différentes déclarations du chef de l'État, de la manière dont il met en scène tout cela désormais. Je crois que oui, il veut faire de l'Ukraine, de ce conflit entre la Russie et l'Ukraine, un sujet pour les élections européennes, parce qu'il pense que c'est l'épine dans le pied du Rassemblement
national. On fait de la politique internationale et on agite les peurs pour faire campagne sur les européennes.
Non, mais pas seulement. Je crois qu'effectivement, il y a une volonté du président de la République qui a toujours dit que l'Ukraine ne pouvait pas perdre cette guerre. Voyant que la Russie gagne du terrain et est en position de force, je crois qu'il y a une véritable inquiétude du chef de l'État. Mais que cette inquiétude qui est réelle...
Partagée par lui seul, hein.
Non. Je crois que ah bon ce que vous dites est faux. Non, ça n'est pas partagé par lui seul.
Je sais pas, j'ai entendu le ministre allemand encore tout à l'heure.
Non, c'est partagé par beaucoup de monde. Le fait que l'Ukraine ne puisse pas gagner cette guerre, je crois que ça fait consensus au sein de l'Union européenne. Ensuite, c'est sur les moyens.
Mais le fait d'être lâche et de ne pas engager des troupes, ça fait pas consensus.
Ensuite, c'est sur les moyens qu'on produit, qu'on donne pour permettre à l'Ukraine de ne pas la perdre, cette guerre, qu'il y a des divergences. Mais sur le fait que l'Ukraine ne peut pas perdre cette guerre, il y a un consensus au niveau européen. Donc, il y a une inquiétude réelle du chef de l'État. Et cette inquiétude, elle est en partie mise en scène, effectivement, dans le cadre des élections européennes.
Moi, je reviens surtout, évidemment, sur ce qui nous a marqué ces 10 derniers jours. D'abord, il y a une dizaine de jours, donc Emmanuel Macron qui n'excluait pas d'envoyer des troupes occidentales selon la dynamique, pour reprendre ses mots, de ce conflit. Mmh. Et puis hier, à Prague, cette façon de persister en rappelant à ses alliés européens qu'il ne fallait pas être lâche. Jean-Claude Dacier, je trouve qu'il y a quelque chose quand même de très français, peut-être, dans cette façon de se donner en exemple, de vouloir susciter l'admiration des autres pays, le sentiment que c'est assez contre-productif en fait, de montrer nos alliés du doigt en se mettant soi-même en exemple.
Semble-t-il. J'espère que Johan se trompe, mais je n'en suis pas tout à fait sûr. J'espère que le président de la République ne se sert pas de ce conflit ukrainien qui est quand même d'une extrême gravité pour faire de la petite politique intérieure et essayer de regagner les 10 points que les sondages indiquent aujourd'hui derrière le Rassemblement national. J'espère que tout de même, les enjeux qui sont là, sous nos yeux, sont plus importants que les élections européennes, dont on pourra dire éventuellement un mot dans les jours et dans les semaines qui viennent.
Même dans les minutes qui viennent.
Ce qui est clair, c'est que moi, je n'ai pas tout à fait bien compris, hélas, la politique que veut mettre en œuvre le président de la République en Ukraine.
Le sait-il lui-même ?
Écoutez, je veux le croire, mais je me console. Dans un premier réflexe, je me suis dit, tu es idiot, tu n'as pas compris la stratégie que met en œuvre le président de la République avec les ambiguïtés qui vont avec.
Pas vous, Jean-Claude. Pas après tout ce que vous avez fait.
Mais honnêtement, quand j'observe les réactions des différents partis européens, des leaders des différents partis européens, le bilan est quand même assez préoccupant et plutôt négatif.
Tiens, je vous
Alors,
ah, pardon.
Je ne sais pas ce qu'auront donné les deux entretiens de ce soir. On aura quand même, et ça me rassure et ça m'intéresse, on aura quelle date ? Au mois de mars, le débat. D'abord à l'Assemblée nationale, ensuite au Sénat.
La semaine prochaine, ça commence.
C'est la semaine prochaine.
Non, mais même dès demain, il y a les chefs de parti qui sont aussi reçus par le chef de l'État pour évoquer cette question.
Le débat,
avant justement les débats.
Le débat où tout de même, le président de la République va devoir s'expliquer sur cet accord entre guillemets secret, accord de sécurité, qui après la Tchécoslovaquie a été signé avec M. Zelensky, qui prévoit un certain nombre de milliards d'euros de dettes. Pour 2024, 3 milliards supplémentaires. Je ne sais pas où on les prendra, sauf si on les emprunte.
On n'est pas très endetté, donc c'est pas...
Oui, on n'est pas très endetté, c'est pas très grave. Il y a 10 ans d'un accord. Je pense qu'un débat est indispensable et nécessaire. Il y aura un vote.
Je voudrais qu'on entende le...
Mais un vote sans engagement. C'est-à-dire que le Premier ministre, qui parlera, ne prononcera pas, n'engagera pas sa responsabilité. J'espère tout de même que au terme de ce débat, d'abord Assemblée, ensuite Sénat, on saura un peu mieux quelle est la politique que M. Macron veut mettre avec l'Europe en œuvre en Ukraine. Ça me préoccupe beaucoup quand même.
Jean-Claude, je voudrais qu'on entende le ministre allemand de la Défense aujourd'hui, parce que donc au cours de la visite hier à Prague d'Emmanuel Macron, le président, donc on a remis une couche après son discours du 26 février, et une nouvelle fois, nos partenaires, les Allemands notamment, donc eux, peuvent goûter la sortie présidentielle. Écoutez.
Ah ouais, normal.
Il ne s'agit pas de savoir qui veut en faire plus. Il faut se concentrer sur ce dont l'Ukraine a le plus besoin. Nous n'avons pas besoin, du moins de mon point de vue, de discussions sur les troupes sur le terrain ou sur le fait d'avoir plus ou moins de courage. C'est quelque chose qui n'aide pas vraiment à résoudre les problèmes que nous avons.
Même Washington, Karima, a rappelé hier qu'il n'y avait aucune raison d'envoyer des troupes occidentales. C'est pour ça que je parle d'isolement du président Macron.
Oui, puis on a vu les États-Unis qui ont dit Vladimir Zelensky, ce n'est même pas ce qu'il demande en ce moment. Ce qu'il veut, M. Zelensky, c'est qu'on envoie du matériel militaire. C'est la priorité et c'est d'ailleurs là où il y a un problème. Il n'y a pas cette fourniture comme telle pour véritablement aider les Ukrainiens. Et d'ailleurs, ça peut être, on a entendu les Allemands qui étaient un peu remontés, disons-le poliment.
On vient de le voir.
Parce que quand on regarde les la liste finalement des pays qui donnent le plus à l'Ukraine, il y a bien sûr les États-Unis, plusieurs milliards de dollars, mais il y a de l'aide évidemment soutenue des États-Unis. Et ensuite, il y a l'Allemagne. La France n'est pas... Et après,
donc, derrière, ouais.
Exactement. Alors là-dessus, et ensuite peut-être deux choses. Je veux juste revenir sur la question des Européennes, parce que ça a quand même un lien, tout ça. Et ça a un lien, oui, il y a ce message à l'international, mais oui, on veut embarrasser le RN avec tous les liens, essayer de mettre un peu la focale sur des liens ou des anciens liens, notamment avec la Russie, faire des parallèles en fait avec le RN et la Russie. Il y a cette chose-là. Et rappelez-vous aussi quand il y a eu l'invasion de la Russie en Ukraine. On était pendant les présidentielles et ça a bien servi aussi le gouvernement d'Emmanuel Macron parce que souvent, le parti politique qui est en place assure, entre guillemets, la stabilité. Maintenant, on va vers les européennes. Est-ce que ça peut, évidemment, ça peut sembler de faire de la politique politicienne, mais il y a quand même cette idée de dire « je suis aux commandes, je m'assure, moi, avec la liste présidentielle, que finalement, l'Europe est en meilleure posture si nous sommes finalement aux manettes ». C'est un peu aussi le message qu'on envoie.
Sauf qu'en attendant, Céline Pina, il a juste réussi à nous isoler un petit peu plus en une dizaine de jours. Quel est le gain, en fait? C'est ça la question que je me pose. Quel est le gain pour la France sur les 10 derniers jours, après ces déclarations d'Emmanuel Macron, à part provoquer une nouvelle crise avec l'Allemagne, en l'occurrence?
En fait, c'est très rare que Macron donne l'impression d'avoir prévu et d'avoir anticipé les conséquences de ses actes. En général, il est dans une telle infatuation du moi que finalement, là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a joué. Il a joué au grand homme. Pourquoi? Parce qu'en France, le dernier grand homme qu'on ait eu, c'est De Gaulle, et que De Gaulle est complètement lié à la Deuxième Guerre mondiale. Il est dans quelle logique? Rappelez-vous, Churchill, en 1941, quand les États-Unis entrent dans la guerre, Churchill dit « on a gagné ». Pourtant, franchement, c'est l'horreur à ce moment-là en Europe. Pourquoi? Parce qu'il sait que les États-Unis, entrant dans la guerre, c'est toute leur industrie qui va se transformer en industrie de guerre. Ce qui veut dire qu'en termes de production, de matériel, de munitions, au-delà de l'envoi même des hommes sur place...
Sauf que là, nous sommes dans le scénario exactement inverse.
Vous avez un rouleau compresseur. C'est exactement ça. Or là, c'est la Russie qui met toute son industrie au service de la guerre. Donc, prévoir que l'Ukraine va finir par perdre n'est pas très compliqué. Le seul problème aujourd'hui, c'est que ce risque nous impacte directement. Pourquoi? Parce que si Trump est élu, eh ben la main des États-Unis qui nous protège se retire et on se rend compte qu'on est à poil. Pourquoi? La seule armée un petit peu digne de ce nom en Europe, c'est l'armée française. Il y a de quoi pleurer quand vous regardez l'état dans lequel elle est. C'est la meilleure. Nous sommes les seuls à avoir la bombe, etc. Donc nous jouons un rôle stratégique extrêmement important. Mais malgré tout, nous sommes ridicules et aujourd'hui, nous ne sommes pas
L'Europe
capables...
L'Europe n'est pas capable d'assurer sa propre
Mais
sécurité sans les
Mais nous ne sommes même pas capables
États-Unis.
De défendre notre Absolument. Propre territoire.
Bien sûr.
Donc, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi est-ce qu'il demande aussi, quelque part, l'aide de Hollande et de Sarkozy? Parce qu'il s'est mis tout seul à poil au fond de la cour, que tout le monde l'a vu.
Peu de respect, s'il vous plaît.
Et que malheureusement, la seule chose qu'il peut faire aujourd'hui, c'est essayer d'habiller une erreur majeure
On est dans une
en,
mise en scène.
Réflexion partagée. C'est franchement risible.
Jean-Sébastien et Tatiana, on va vous entendre bien sûr. Je voudrais juste entendre un dernier extrait du président Hollande sur Vladimir Poutine. Et ce que dit le président Hollande, c'est que Vladimir Poutine ne comprend que la force.
Il ne comprend que la force. Il veut impressionner. Et donc la seule réponse possible, c'est de montrer que nous sommes avec les Ukrainiens dans une totale solidarité, que nous leur apportons tout le soutien nécessaire, sans bien sûr nous-mêmes. Et c'est ce qui doit nous conduire à être généreux, sans nous-mêmes participer à quelque combat que ce soit. Toute l'Europe doit faire un effort pour donner davantage, et surtout donner plus vite et donner le matériel qui est le plus efficace sur le terrain. Ma position sur les questions militaires, et je l'ai montré quand j'étais président, c'est que moins on en dit, mieux on agit. Ne pas dire ce que l'on fait, mais faire ce que l'on n'a pas dit.
Ce serait pas un petit tacle sous-marin, ça
Si, bien sûr.
Moins on en dit, plus on agit. Emmanuel Macron en dit, moins il agit.
Au moins sur ce point, il a raison.
C'est ce que dit François Hollande.
Je crois qu'il faut distinguer deux choses.
C'est subtil, mais c'est
différent. La manière dont Emmanuel Macron s'est exprimé, et je pense quand même ce qu'il essaye de faire. Parce que oui, certainement, il y a une part de cynisme. Oui, il y a un calcul politique vis-à-vis du Rassemblement national, ça me paraît incontestable. En revanche, je pense qu'Emmanuel Macron essaye de faire autre chose. Il a quand même compris des réalités géopolitiques qui s'imposaient à nous, et notamment quand vous dites que ça nous isole en Europe. Déjà en Allemagne, vous avez à peu près les mêmes débats qu'en France, avec aussi beaucoup de gens qui critiquent le chancelier Scholz, justement parce qu'il est sur la ligne inverse à celle d'Emmanuel Macron.
Quoi, que les Allemands veulent partir en guerre.
C'est une génération. Non, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais ça ne veut pas dire partir en guerre. Justement, c'est là où on peut avoir un désaccord fondamental, c'est que éviter la guerre, c'est parfois précisément savoir éveiller les consciences et dire il est temps de reconstruire une économie de guerre parce que le cas échéant, ce n'est pas un deux coups de cuillère à peau.
L'ennemi qui est plus fort que nous.
Non, mais précisément, ça veut dire qu'il faut savoir le faire, il faut savoir s'être mis en situation d'eux, parce que si vous êtes fort, vous pouvez éviter la guerre, alors que le fait d'être faible attire justement...
Et nous sommes faibles de
fait. Vous savez, Céline parlait de Churchill. Churchill, il disait aussi un conciliateur, c'est le crocodile qui... C'est celui qui nourrit le crocodile en espérant être le dernier à être mangé. Quand on regarde en Europe, les pays de l'Est, les États baltes, pour le coup, les fameux États baltes, les trois États baltes, je peux vous garantir, et d'autres aussi, à Prague, ont soutenu ce que dit Emmanuel Macron, et surtout ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on veut amener la Russie à la table des négociations, la Russie, elle se sent forte, parce que le constat que nous sommes capables de faire là, à savoir l'Ukraine est affaiblie à l'heure actuelle, les Russes, ils sont capables de le faire. Ils ne vont pas aller négocier une solution diplomatique s'ils pensent qu'ils peuvent gagner militairement. Et cessons de croire que ça ne nous regarde pas et que 3 milliards, ce serait beaucoup alors qu'on a beaucoup d'autres choses à faire.
C'est parce que
le jour où toutes les céréales ukrainiennes, parce que tous les marchés mondiaux dépendent des céréales ukrainiennes. Le jour, elle serait sous la domination russe. Donc, arrêtons de penser que c'est si simple que ça, parce que je pense qu'Emmanuel Macron a été maladroit dans la manière de le dire.
Vous savez de quoi il est né,
François Hollande avait raison de souligner.
C'est le seul problème.
Il y a des choses qui vont mieux faire plus
de sens. Il y a manière et manière de dire.
Le débat que nous avons est né il y a 10 jours.
Vous savez ce qu'il essaie de faire?
Je finis juste ma relance, qui n'exclut pas d'envoyer des troupes occidentales en terrain de guerre. C'est de là qu'est né le débat.
Je finis juste
d'une phrase.
Il y a une rationalité. À mon sens, il y a une rationalité à mettre les Européens face à la réalité. Si l'Ukraine s'effondre après une offensive de printemps ou à l'été prochain, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, ça, de poser la question en amont plutôt que de réagir en étant pris au dépourvu, ça n'est pas non plus complètement stupide d'un point de vue stratégique, ce qui ne veut pas dire y répondre de la manière dont le fait à l'heure actuelle Emmanuel Macron.
Dernier mot, Tatiana.
Peut-être en plus qu'un mot, si vous voulez bien.
Bien sûr.
Je suis tout à fait d'accord avec Jean-Sébastien. Exactement. La Russie est en économie de guerre à l'heure actuelle. La Russie a des munitions, des équipements. Elle a des milliers, des millions d'hommes même mobilisables. On l'a bien vu. Elle est en position de force aujourd'hui avec des Ukrainiens qui sont face à cette armée totalement épuisée, démunie. On a un vrai débat en Europe sur qu'est-ce qu'on leur donne, qu'est-ce qu'on leur envoie, etc. Ils sont à court de munitions. Donc évidemment que la Russie est en position de force. Par ailleurs, Vladimir Poutine est extrêmement belliqueux, on le voit bien. Regardez encore aujourd'hui ce qui s'est passé, un missile russe à 150 mètres du convoi de Volodymyr Zelensky et du Premier ministre grec. Si ce n'est pas un signal donné à nous, les Européens, et une façon de montrer justement que tout est permis et que si on veut le menacer, lui aussi peut menacer et tuer en direct des caméras qui il veut, ou aller tuer ses opposants, ou aller annexer n'importe quel pays ou n'importe quelle région. Quand est-ce qu'on met une ligne rouge, en fait? Quand est-ce qu'on considère qu'on met une limite à Vladimir Poutine?
Et qu'est-ce qui nous sépare, en fait?
Qu'est-ce qu'on fait, alors?
Qu'est-ce qui nous sépare d'un conflit mondial, là, en fait?
Pour répondre à ce que disait Jean-Claude, tout le monde évoque une sorte de stratégie d'ambiguïté, justement, d'Emmanuel Macron. Et je pense qu'il a raison. Je pense que François Hollande a raison. Vladimir Poutine ne comprend que la force. Et c'est en montrant, justement, qu'on est fort. Le problème, c'est qu'il faut que les actes suivent. Et le problème, c'est qu'après ce discours très fort d'Emmanuel Macron, certes ambigu mais fort, cela dit, on a montré quoi? Une désunion européenne. Et ça, c'est un vrai souci. Qu'en fait, quand on a ce genre de discours, il faut s'assurer justement que derrière, les troupes sont unies et prêtes justement à partir avec vous et à avoir la même position et le même discours. Et ça, par contre, c'est un souci. Et voilà, et ça pose toujours la même question, la défense européenne, d'une armée européenne. Et dernière chose, c'est vrai qu'aujourd'hui, en l'état, et je vous joins tout à fait Céline, on est très faible. C'est-à-dire que quand on regarde nos moyens, on n'a même plus de service militaire. Qui sait encore faire la guerre chez nous en France? On est quand même très faible aujourd'hui en Europe. C'est pour nous un déni total d'une guerre possible. Et personne ne veut la guerre. Et j'espère qu'on l'évitera. On va fêter les 80 ans du débarquement dans quelques mois. Mais
comment on fait?
Le problème,
c'est que. Oui, c'est ça, je veux bien.
Jean-Claude,
la théorie, c'est bien, mais donc.
Prenons le scénario de Jean-Sébastien. Dans 6 mois, l'Ukraine est écrasée. Il est en passe de l'être. Qu'est-ce qu'on fait?
C'est eux qui meurent.
Qu'est-ce qu'on fait? Avec quelle armée? Avec quoi?
Déjà, mettons-nous en situation de reconstruire une économie de guerre. Parce que
ce ne sera pas fait en 6 mois.
La menace, elle n'est pas que en Europe. La Russie, elle nous menace aussi ailleurs. Elle nous a menacé pour les Comores. Elle nous a menacé en Afrique. Il n'y a pas que la Russie.
C'est pas la même histoire.
Il n'y a pas que la Russie. Mais enfin,
ouvrons. C'est des guerres hybrides que vous me parlez, dont vous me parlez. C'est pas la vraie guerre.
Ce sont des guerres hybrides. Enfin, il y a quand même un axe qui s'est créé entre la Russie, la Chine, l'Iran. Regardez la guerre en mer Rouge.
Et ça on a cherché
profondément le commerce mondial.
Donc, une maladresse.
Non, mais ils sont en train de construire leurs propres réseaux commerciaux. C'est un moment de la planète où, il y a des grandes lignes.
Mais les guerres d'influence et les guerres hybrides ne sont pas des guerres militaires comme le président Macron semble l'envisager. Mais,
Julien, la possibilité de. Et par ailleurs, quand même, quand vous faites le total des budgets militaires de l'Union européenne, c'est quand même très nettement supérieur au budget des dépenses militaires en Russie.
Très bien. Deux fois 30 secondes, les amis, s'il vous plaît.
Vous avez une ligne de fracture entre aujourd'hui des empires qui veulent, qui sont dans une logique de conquête territoriale et les démocraties. Cette ligne, elle s'installe, sauf qu'aujourd'hui, la puissance militaire est du côté de l'impérialisme, de l'empire, et la faiblesse et la naïveté est du côté des démocraties. La seule chose à faire, c'est si vis pacem para bellum, si tu veux la paix, prépare la guerre. Le seul problème, c'est qu'en fait, on va rester très à découvert pendant au moins, au mieux 5-6 ans. Ben voilà. Mais si on ne s'y met pas tout de suite, en revanche, notre avenir est quand même franchement impacté et mis en cause.
Enfin, on a une arme quand même, grâce au général de Gaulle, qui est l'armement nucléaire. Oui. Beaucoup étaient contre à l'époque.
Pas trop l'utiliser.
On a l'armement nucléaire.
Si on pouvait éviter.
En principe, ça évite les graves ennuis classiques.
C'est pareil. Pour conclure, très vite, s'il vous plaît.
Ce qui m'inquiète, ce ne sont pas les déclarations du président de la République. Quand il dit « je n'exclus pas d'envoyer des troupes en Ukraine », je crois que je comprends assez bien ce qu'il a voulu dire et ce qu'il a voulu faire. Mais ce qui est plus inquiétant, à mon sens, c'est que beaucoup de Français ne comprennent pas les conséquences qu'aurait une victoire de la Russie sur l'Ukraine pour notre pays. Et il y aurait des conséquences majeures. C'est aussi cela que le président de la République a voulu mettre en évidence. Quand on dit que l'Ukraine ne peut pas gagner cette guerre, c'est parce que ça aurait des conséquences, notamment que la Russie ne peut pas gagner cette guerre, ça aurait des conséquences sur toute l'Europe. Et notamment, évidemment, sur la France, des conséquences majeures, des conséquences géopolitiques.
Ça a commencé.
Des conséquences.
Regarde les budgets,
des conséquences,
regarde comment on fait.
Des voilà, mais des conséquences majeures, encore une fois, vraiment majeures.
Bruno Le Maire voulait mettre l'économie russe à terre. Je crains que ce soit la nôtre et qu'il y ait quelques difficultés.
Merci. Ouais. 23h pile. Maureen Vidal pour l'essentiel de l'actualité. Puis on va un peu parler des européennes. Je vous avais dit qu'on allait le faire dans quelques minutes et pas seulement dans quelques semaines, cher Jean-Claude, parce que le gouvernement, j'allais dire non, c'est pas à propos après le sujet qu'on vient d'évoquer, j'allais dire tir à balles réelles sur les extrêmes. Mais on va essayer de trouver une autre formule pour dire qu'il est très offensif contre le RN et LFI. Vous allez entendre ça dans un instant. Maureen Vidal.
L'homme interpellé ce matin pour une agression antisémite à Paris a été conduit dans une infirmerie psychiatrique. Une expertise a conclu que son état de santé n'était pas compatible avec son maintien en garde à vue. Vendredi dernier, il avait violemment agressé Marco, 62 ans, qui sortait de la synagogue dans le 20e arrondissement. Lors de son audition, le suspect, né en 1992, a reconnu avoir porté des coups à la victime, mais a indiqué avoir réagi en état de légitime défense. Bruno Le Maire défend un plan sur les dépenses de l'État pour refroidir la machine. Le ministre de l'Économie veut économiser 10 milliards d'euros. Des coupes budgétaires qui concernent notamment la transition écologique, le travail ou encore l'éducation. Enfin, l'État de New York déploie des militaires dans le métro pour lutter contre la criminalité. 1000 soldats sont mobilisés, annonce le gouvernement démocrate de New York. Cette mesure fait suite à une série d'incidents, dont une fusillade mi-février dans une station du Bronx qui a fait un mort et 5 blessés.
Merci beaucoup, Maureen Vidal. Rendez-vous dans 30 minutes. La charge de... on va entendre avec Dupond-Moretti, mais d'abord Gabriel Attal contre LFI, notamment sur la laïcité. LFI accusé de ne pas faire, par le Premier ministre, de ne pas faire les efforts nécessaires pour soutenir la laïcité. Écoutez le Premier ministre qui a profité aujourd'hui d'une réponse au député socialiste Jérôme Guelch pour fustiger le manque de soutien du groupe politique France Insoumise, donc notamment après les menaces de mort dont on a beaucoup parlé ces derniers jours contre le proviseur du lycée Maurice Ravel dans le 20e arrondissement.
La laïcité a aussi ses fossoyeurs. Et je le dis, ils sont y compris représentés dans cet hémicycle. Moi, quand on parle de soutien aux équipes pédagogiques, aux proviseurs, j'ai vu qu'il y a quelques jours, un proviseur a fait l'objet de menaces de mort parce qu'il a cherché à faire appliquer la loi de 2004 dans son établissement en demandant à une élève de retirer son voile. Il a fait l'objet de menaces de mort et j'ai vu une députée de la France insoumise relayer les théories contre ce proviseur sur les réseaux sociaux. Je le dis, monsieur Gedge, c'est une réalité. Je remarque que quand j'ai pris la décision en tant que ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse d'interdire le port de l'abaya et du camis à l'école, ce sont encore une fois les députés de la France insoumise qui se sont dressés sur mon chemin pour chercher à m'empêcher d'appliquer cette règle. Il ne peut pas y avoir de laïcité à la carte, de la même manière qu'il n'y a qu'une seule République, il n'y a qu'une seule laïcité, et nous devons, toutes et tous, au quotidien, en être les défenseurs. Je sais que vous l'êtes, mais je regrette de constater que cette cohérence n'est pas partagée dans la NUPES, loin de là, notamment avec la France insoumise.
Ce proviseur menacé de mort, hein, je le rappelle, pour avoir demandé à une élève d'enlever son voile dans ce lycée parisien. Attal fait de la politique, là encore.
Il fait de la politique, mais il dit la vérité, surtout. Là, pour le coup, je crois que ce qu'il dit est absolument incontestable. Si la France insoumise...
Nous ne serions pas à 2 mois d'un scrutin, à 3 mois, 4 mois, 9 mois...
Non, mais si la France insoumise, aujourd'hui, est garant de la laïcité dans ce pays, alors je ne m'appelle plus Johan.
Parce et les filles, le fossoyeur de la laïcité.
Non, mais évidemment, Gabriel Attal donne un exemple qui est criant, si vous voulez. L'abaya, la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon notamment, n'a pas eu de mots assez de dire pour dire à quel point ce gouvernement était islamophobe de vouloir interdire l'abaya au sein des collèges et des lycées. Donc, si vous voulez, quand on en est à prôner, ou en tout cas à tolérer le port de l'abaya, qui est un vêtement religieux, ostentatoire, qui est un vêtement symbole de l'antrisme des islamistes dans ce pays, quand on en est à défendre cela, il est évident qu'on ne défend pas la laïcité et qu'on mène une politique et qu'on souhaite mener une politique contraire aux valeurs de la République.
Céline Pina, sur le fond, est la fille fossoyeur de la laïcité pour reprendre l'attaque de Gabriel Attal?
J'allais dire oui, tout à fait. Et ensuite, si Gabriel Attal voulait vraiment faire de la politique politicienne, c'est pas LFI qui doit s'en prendre, c'est ORN. C'est le RN qui met 10 points dans la vue de bien Renaissance. Sûr. C'est pas LFI.
Ça arrive avec le garde des Sceaux dans une seconde, vous allez voir.
Et j'allais dire, LFI aujourd'hui paye le prix d'un antisémitisme extrêmement fort, d'avoir soutenu et porté le Hamas, d'avoir été incapable de réagir à un crime contre l'humanité commis en Israël, d'avoir ignoré le viol sordide des femmes, d'être infoutu de défendre les Iraniennes qui se font pendre.
Céline, donnez-moi 3 minutes et je vous présente l'une des candidates aux européennes annoncées par LFI aujourd'hui. Vous allez voir qu'il y aura des choses
oui,
à dire
sais,
également.
Mais ce que je veux dire, c'est que sincèrement, ce qu'il dit est la vérité et je trouve que là, il fait l'œuvre qu'on devrait demander à tous les hommes politiques. Il défend, au-delà de son appartenance partisane, ce qui fait le cœur de notre contrat social, la laïcité. Et franchement, moi, je l'en remercie, parce qu'il n'y en a pas tant qui le font aujourd'hui.
Je voudrais qu'on entende également Éric Dupond-Moretti, parce que là, ce sont donc les deux extrêmes, LFI et le RN, qui en prennent pour leur compte. Oui, je vous le confirme, nous sommes bien entrés en campagne pour les européennes.
Les extrêmes se rejoignent. Yaël Braun-Pivet est parti camper, alors que sa famille a été déportée à Tel Aviv. Pourquoi vous croyez que la famille de Robert Badinter n'a pas voulu de vous aux funérailles de Robert Badinter? Vous invitez Corbyn et de deux. Vous traitez le patron du CRIF de membre de l'extrême droite. Vous invitez Médine. Elisabeth Borne, vous rappelez d'elle qu'elle est rescapée. Vous êtes honteux. Honteux. Mais quand j'ai dit ça, j'ai pas tout dit. Monsieur Bardella, incapable de dire si Le Pen est antisémite, alors qu'il a été condamné près de 20 fois, à la fois d'ailleurs, pour des propos haineux, mais aussi pour des violences exercées sur une élue socialiste. Sans compter les propos homophobes qu'il a tenus. Monsieur Bardella, qui se rend à Florence avec ses homologues européens, qui entend des propos antisémites comme ils n'ont pas été tenus depuis 50 ans en Europe, et qui, interrogé par un journaliste, dit « J'ai pas bien compris, je comprends pas la langue ». Pardonnez-moi, monsieur Odoul, vous qui êtes interrogé sur 3 000 migrants massés à la frontière polonaise qui répondaient qu'ils peuvent crever de froid. J'ai pas fini. Vos amis, quelle fake news, je vous ai entendu à la télévision le dire. Dites que je suis un menteur. Vous l'avez dit, monsieur Odoul. Vous en avez honte aujourd'hui. Vous nous donnez des leçons d'antisémitisme et vous oubliez de rappeler que l'antisémitisme, il vient aussi de votre parti fondé par un Waffen-SS.
Jean-Claude, le disque est un petit peu rayé quand même, non? Après, il est dans son rôle. Hein. Les uns sont des nationalistes, les autres sont des wokistes. Ouais. C'est un peu grossier, mais ça fonctionne. Hein.
Mais je crois que le ministre n'a pas oublié le principe du réquisitoire. Mais wokiste. Honnêtement, il est pas mauvais. Bon, il
se croit un peu. Et puis à force de pilonner, ça porte ses fruits. Hein.
Peut-être plus dans un prétoire que dans au siège de l'Assemblée. Néanmoins, je trouve que ses arguments, qui sont factuels, sont politiquement en tout cas clairs, fondés et acceptables. Et je pense que l'attaque contre le Rassemblement national ne fait que commencer. Mmh. Il est clair que 10 points de retard, le sondage vaut ce qu'il vaut aujourd'hui. On est encore très loin de l'élection du mois de juin. Néanmoins, plus de 10 points, parfois, de retard.
Il y a un sacré fossé. Ouais.
Entre le Rassemblement national et le gouvernement, ou les listes proches de lui, c'est quelque chose d'extrêmement préoccupant. On peut même se demander ce qui se passerait derrière, même si, encore une fois, entre les européennes et la présidentielle, ce n'est pas du tout de même nature.
Non, mais là,
les résultats d'une européenne n'annoncent pas du tout les résultats d'une présidentielle.
Mais
néanmoins,
ce qui est sûr, c'est que ce scrutin européen, pour une fois, pourrait être
oui,
très
néanmoins,
passionnant.
Ça secouerait assez fort, et même très fort, si l'écart restait ce qu'il est. Quant au Premier ministre, M. Attal, j'ai trouvé que son discours était là aussi excellent. On est confronté avec les islamistes radicaux, dont certains d'ailleurs jeunes, pas grand-chose dans la tête, si ce n'est quelques idées simples, sont en train de nous poser des problèmes considérables, pas dans toutes les écoles, mais dans certaines de nos écoles.
On l'a vu.
Il n'est pas tolérable, mais on peut appeler ça comme on veut, l'ensauvagement, que sais-je. Il n'est pas tolérable de continuer à tolérer. Parce que à chaque fois, les ministres disent « Ah, ben c'est inacceptable !» Sauf qu'on accepte.
Le problème, Jean-Claude, c'est que j'ai l'impression qu'en ce moment, et notamment pour le garde des Sceaux, le RN et les extrêmes, comme ils les appellent, l'intéressent plus que son propre ministère et les affaires courantes.
Ce qui se passe dans nos écoles, il serait quand même temps de s'en préoccuper plus que sérieusement. Les proviseurs ont eu raison de se rassembler et de protester. C'est pas acceptable de voir les menaces de mort qui s'accumulent sur leur tête et les protestations et les comportements absolument incroyables de certains.
C'est certain.
Donc, je ne vois qu'une solution, c'est qu'une politique claire, là encore, soit édictée. Et elle ne peut passer, me semble-t-il, que par une sanction courte, ferme et surtout rapide. Le dernier incident, je ne sais pas si on va en parler dans cette émission, le dernier incident, franchement, le gars qui a fait je ne sais plus quoi dans une école, on va le juger dans 3 mois et demi. Mais ça n'a aucun sens.
Et c'est pour ça que
aucun
cette violence continue à se généraliser et qu'il y a ce sentiment d'impunité. On le verra d'ailleurs avec Amaury Bucco qui va nous rejoindre dans un instant, qui va nous parler d'un homme qui a tout simplement attaqué au couteau une famille avec un bébé parce que le bébé faisait trop de bruit dans le train. Ça s'est passé ces dernières heures dans un train entre Strasbourg et la Suisse, je crois. Enfin, il nous le confirmera dans un instant, Amaury. D'abord, je voudrais qu'on conclue notre page politique en évoquant encore une fois LFI parce que LFI a bien fait parler d'elle, la France Insoumise. Ces dernières heures, encore une fois, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon a dévoilé aujourd'hui l'identité de ses candidats pour justement cette fameuse course au Parlement européen qui sera votée le 9 juin prochain. Et parmi les débauchages sur cette liste dévoilée, donc, figure Rima Hassan. Vous ne connaissez peut-être pas son nom. C'est une militante de la cause palestinienne accusée d'antisémitisme, notamment par l'animateur Arthur qui, il y a quelques semaines, avait posté ceci sur ses réseaux sociaux alors que cette dame était nommée dans le classement Forbes, des personnalités, je ne sais pas pourquoi, influenceurs ou
C'était les 40 femmes de l'année.
Les 40 femmes de l'année, merci beaucoup Céline. On se donne rendez-vous à la grande soirée Forbes France, avait dit Arthur. Si vous voulez apparaître dans le prochain classement Forbes, le plus simple c'est de faire l'apologie du terrorisme du Hamas et d'être une antisémite patentée, avait dit Arthur. Alors que David Guiraud, le député LFI, lui s'est au contraire félicité de cette nomination aujourd'hui. On découvre le visage de cette jeune femme pour ceux qui ne le connaissent pas. Quelle fierté de retrouver donc Rima Hassan, dit-il, dans notre liste menée par Manon Aubry aux élections. Le 9 juin, nous pouvons envoyer une voix palestinienne au Parlement européen. Heureux également d'y retrouver de beaux noms, notamment mon camarade Brahim Ben Ali. En avant, au moins, j'ai envie de dire, tiens, Jean-Sébastien et Tatiana qui n'ont pas pris la parole sur le dernier sujet, mais de toute façon, on fait un tour de table. Au moins, ces gens-là ont le mérite d'être cohérents, j'ai envie de dire.
Oui, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez de la conférence qu'avait donnée David Guiraud pas très longtemps après le 7 octobre, dans laquelle il disait « les bébés découpés, ça existe, mais c'est Israël ». Et enchaîner comme ça un certain nombre de choses, c'était avec la fameuse Rima Hassan qui est très active sur les réseaux sociaux. Et alors, la manière de la présenter, je trouve ça quand même extraordinaire. En voyant une voix palestinienne au Parlement européen, on se demande déjà ce que ça a à faire avec une élection en France. Il me semble que Rima Hassan est française, donc on voit bien que les premiers quand même en matière d'assignation identitaire et les premiers à rappeler à des gens qui peuvent avoir des ascendances étrangères qu'en réalité ils ne sont que des étrangers, bah, c'est quand même la France insoumise. Et il y a une autre information qui est passée inaperçue aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a un compte...
Celle-là, passe pas inaperçue. Hein.
Non, mais je vais vous en donner une autre qui, moi, m'a paru très intéressante aussi. Il y a un compte antisémite qui était très actif sur les réseaux sociaux et il y a une enquête qui a été menée. Qui était derrière? Un avocat du barreau de Lille. D'ailleurs, le barreau de Lille est très ennuyé. Et de qui était proche cet avocat? David Guiraud, le même David Guiraud, député de la France Insoumise, parce qu'il était, il est député.
D'accord, c'est une enquête qui est en cours, on va être prudent en mettant en avant.
Non,
c'est vérifié. Je ne l'ai pas vu, d'accord.
C'est établi. Donc, incontestablement, on voit bien que la France Insoumise, à minima, est dans une ambiguïté qui est au-delà du détestable vis-à-vis de l'antisémitisme. Rima Hassam est dans une ambiguïté qui est au-delà du détestable vis-à-vis de l'antisémitisme. Elle a quand même revendiqué la Palestine du Jourdain à la mer. La Palestine du Jourdain. À la mer,
ce slogan.
Ça veut dire que entre la mer Méditerranée et le Jourdain, bah, il se trouve quand même que certes il y a la Cisjordanie et Gaza, mais enfin il y a quand même Israël. Donc ça veut dire que c'est une femme qui considère qu'Israël n'a pas le droit.
Et pour finir de dresser le portrait de cette dame, invitée par le média Le Crayon à débattre de la situation en Palestine au mois de novembre, elle est invitée à répondre à l'affirmation « Le Hamas mène une action légitime » et sa réponse est vraie. Karima, un petit mot là-dessus?
Oui, ben en fait, j'allais dire que ça fait partie de cette stratégie. On l'a vu notamment en Grande-Bretagne. C'était une élection partielle. C'est le candidat George Galloway qui a gagné, qui a fait justement sa campagne justement là-dessus, qui, avec cette idée de ce conflit Israël-Hamas. Et c'était au cœur de sa campagne. Donc, on voit effectivement que ça fait partie maintenant de ces stratégies. On ramène ça ici pour des élections nationales. Écoutez, que quelqu'un ait une sensibilité pour les civils palestiniens, moi, j'ai aucun problème avec ça. Là où j'ai un problème, où c'est quand on bascule et, par exemple, je regardais notamment sur ses tweets, hein, quand elle dit « boycotter Israël dans tous les domaines », donc des appels au boycott, on s'éloigne justement de cette fameuse idée de cette France qui pouvait être une voie différente, qui pouvait apporter quelque chose justement pour ce qui est de la question de la paix ou quoi que ce soit. Je pense qu'on se détourne de ça et au contraire, on radicalise le conflit.
Je voudrais qu'on entende Caroline Yadan, la députée Renaissance de Paris, qui a commenté justement cette nomination depuis les travées de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Regardez, écoutez.
C'est une dame qui a affirmé de manière très claire que le Hamas a mené une action légitime. Le Hamas qui a violé, qui a brûlé, qui a décapité, qui est assimilé par cette femme à un mouvement de résistance. Cette femme qui prône par ailleurs un État palestinien « from the river to the sea », ce qui revient tout simplement à effacer l'État d'Israël. Donc ça, c'est votre réalité. C'est la réalité de ceux qui s'allient aux islamistes. C'est la réalité de ceux qui offrent une excuse victimaire à tous les agresseurs de juifs en France. C'est votre responsabilité et il est temps d'en prendre conscience et de faire le travail qui s'impose dans vos rangs.
Cette juriste, je parle de Rima Hassan, un juriste franco-palestinienne de 31 ans qui s'inscrit parfaitement dans la stratégie de LFI qui consiste donc, on l'a tous bien compris désormais, à placer les événements d'Israël et à Gaza au centre, au cœur du débat politique.
Pour poursuivre ce que disait Caroline Yadan, c'est la deuxième fois quand même que nous font le coup, je rappelle quand même. Mariam, l'invitation de Mariam Aboudaka par Ercilia Soudé justement à l'Assemblée nationale, deux jours après le massacre du 7 octobre. Donc militante du FPLP, organisation considérée comme terroriste, qui avait été donc invitation annulée par Yael Braun-Pivet, trouvant ça absolument honteux et je l'entends et je le comprends. Et Ersilia Soudé avait quand même eu cette phrase absolument ubuesque, disant « Je pensais convier Madame Aboudaka pour son militantisme féministe, non pour son appartement supposé au FPLP. » Les bras m'en tombent, sincèrement. Bon. Donc c'est la deuxième fois qu'ils nous font le coup. Et surtout, quand vous parlez en fait en interne avec des membres de LFI, qu'est-ce qui se passe? La réalité, c'est quoi? Il y a une vraie fracture en fait au sein de LFI. Premièrement, personne n'a été informé au sein de LFI, à part les cadres, etc., de cette septième position de cette militante palestinienne. Qu'est-ce que ça a dit en fait de
stratégie? Parce que ça en gêne certains.
Qu'est-ce que, bah évidemment, bien sûr. Oui. Parce que qu'est-ce que ça dit en termes de stratégie politique pour ce parti? Ils mettent en fait la Palestine au cœur de la campagne des européennes. Évidemment, tout le monde n'est pas d'accord. Deuxièmement, ils mettent une pro-palestinienne qui a une vision tout à fait à l'opposé de LFI. Aujourd'hui, LFI, c'est quoi? C'est une vision avec deux États. Cette militante, elle est pour un État.
Ouais,
un
vrai.
État ou une fédération d'États avec Jérusalem qui serait la
vision
capitale.
Vision très naïve d'ailleurs. Donc, de la nationale.
Pas du tout. Elle est pas du tout.
Il y a quelques années. Pas, une vision à un seul État, c'est très naïf.
C'est pas du tout la vision des membres, d'une partie des membres de LFI. Et puis troisième chose, ça participe quand même de la stratégie, pardon, ça va être très vulgaire, mais de bordélisation de la NUPES de Jean-Luc Mélenchon. En faisant ça, quelque part, en fait, il sait qu'il va fracturer encore plus la NUPES et arriver à ses moyens, qui est qu'en fait, tout à coup, il pourra venir se représenter en indépendant. Donc ça pose quand même une vraie question de fond, d'abord sur pourquoi est-ce qu'à chaque fois, on nous resserre des personnes qui sont très antisémites et anti-Israël. Et deuxièmement, pourquoi cette stratégie qui va à l'encontre d'une partie des membres même de la France insoumise?
Céline Pina, Yohann Uzaï.
Mais je trouve que c'est très intéressant ce que vous dites sur la fracturation de la NUPES, parce que c'est exactement ça et c'est même plus cynique que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la gauche ou la NUPES n'a plus de discours social. Donc elle ne peut plus parler à des catégories identifiées. La seule clientèle qui lui reste, c'est la clientèle communautariste et notamment aujourd'hui la clientèle islamiste et plus largement musulmane et pro-palestinienne.
69% de la communauté musulmane a voté lors des dernières présidentielles pour Jean-Luc Mélenchon.
Voilà.
Et
ce sang, en fait, a été travaillé au corps pour être très concerné par la Palestine. Parce qu'à côté de ça, vous pouvez massacrer tous les Ouïghours du monde, ça fera bouger absolument personne. Et donc, en faisant ça, il récupère les derniers votants pour la gauche, aujourd'hui, les derniers votants pour la gauche sont des gens très communautarisés. Et ce faisant, en prenant le lot des communautarisés, ils virent le PS et le PC. Et donc, pour l'instant, le combat de Jean-Luc Mélenchon, c'est l'hégémonie sur la gauche en utilisant le clientélisme de la communauté musulmane. Et il le fait très bien. Rima Hassan, elle... C'est quand même quelqu'un d'extrêmement dangereux parce qu'elle, elle illustre parfaitement le slogan « Après le samedi, vient le dimanche ». Pour elle, ce qu'a fait le Hamas en Israël est parfaitement justifié. Autrement dit, vous pouvez brûler vifs des enfants, vous pouvez massacrer tous les gens dans une crèche, vous pouvez violer des femmes et leur tirer une balle dans la tête pendant que vous les violez. Tout ça est normal. Et qu'est-ce qu'elle dit d'Israël? Elle dit « Israël est le QG des suprémacistes blancs de toute la planète ». Je peux vous dire que les deuxièmes sur la ligne, ce sont tous les Occidentaux. Donc cette femme, non seulement elle est antisémite, mais elle lance de véritables appels à la haine qui sont entendus comme des appels au meurtre par la clientèle qu'elle vise. Donc à un moment donné, il faudrait peut-être calmer le jeu.
Surtout.
Et puis peut-être discuter aussi de retirer la nationalité à des gens qui ne la méritent pas.
En attendant, les candidates pour les européennes,
ne pas la vouloir.
Pour la France insoumise, Yohann Uzaï.
Au nom de la Palestine.
Non, mais...
Et en septième position.
Je m'en rends pas compte, septième position, c'est un rang important.
Ils étaient éligibles.
Vous pouvez siéger en septième position.
Ils étaient 6.
À 8% dans les sondages, elle était
éligible. 80 candidats sur une liste.
Ah oui, donc elle est très très haut placée, en effet.
Oui,
Yohann Uzaï.
Septième position.
Donc elle pourrait siéger, ce n'est pas juste un prête-nom. C'est quelqu'un qui pourrait avoir son mot à dire dans l'hémicycle parlementaire européen.
En septième position, il est même probable, très probable, qu'elle soit élue. À l'évidence, il n'est pas normal qu'une personnalité de ce type-là, parce que Mme Hassan n'est pas une militante pro-palestinienne. Elle est un soutien revendiqué, affiché, reconnu comme tel, du Hamas, donc d'un groupe terroriste qui a commis un pogrom et commis des pires atrocités à peine imaginables en Israël le 7 octobre dernier. Donc il est absolument anormal, effectivement, qu'une telle personne puisse se présenter sur des listes en France. Donc il est évident que oui, et si elle, il faudrait éventuellement réfléchir à lui retirer la nationalité parce qu'elle ne représente pas du tout notre pays, elle n'incarne absolument pas les valeurs de la République, enfin bon, si elle ne correspond pas du tout effectivement à la France que l'on souhaiterait avoir. Mais quand on dit depuis des mois que la France insoumise représente un danger pour notre pays. On en a l'illustration parfaite. La France insoumise, à force d'antisémitisme, est devenue un parti composé d'antisémites. Ce parti est composé en grande partie précisément d'antisémites. Et on le voit, il représente une grande menace désormais pour la France. On le dit depuis longtemps, mais il faut que chacun en prenne bien conscience. Quand on a ce type de personnes sur des listes, quand on soutient ouvertement un groupe terroriste, qu'on s'en fait le porte-voix à l'Assemblée nationale, on représente un grand danger. On n'est plus républicain. Il n'y a pas de mots assez forts pour qualifier tout cela. Il faut que les électeurs le sachent et agissent en conscience.
Et Jean-Sébastien, et on conclut là-dessus avant d'aller sur cette affaire hallucinante que va nous raconter Amaury Bucaud.
En tout cas, il y a de la concurrence parce que je voyais aujourd'hui, il y a une autre liste qui se présente aux européennes, l'Union des démocrates musulmans français, et qui fait une affiche dans laquelle elle dit « Votez Palestine ». Donc on voit bien aussi l'importation d'un conflit qui quand même... Enfin, je veux dire, bien sûr que la situation au Proche-Orient ou sur les rives de la Méditerranée peuvent concerner la France, mais enfin, ce n'est pas un sujet ni européen ni franco-français, et on voit bien qu'il y a une manière de dresser les uns contre les autres par là. Et sur la fameuse affiche de cette Union des démocrates musulmans français, qu'y a-t-il ? Il y a une carte où, là encore, on ne voit pas Israël. Donc heureusement qu'ils se revendiquent démocrates, parce qu'eux aussi sont pour la destruction d'Israël, parce que s'ils ne se revendiquaient pas démocrates, on ne sait pas bien à quoi ils appelleraient.
Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette candidate donc nommée aujourd'hui par la France Insoumise pour représenter la liste électorale LFI pour les européennes. Je rappelle une nouvelle fois ce scrutin qui aura lieu le 9 juin prochain. Franchement, de mémoire d'élections européennes, je pense que ce sera les plus passionnantes, en tout cas les plus suivies de l'histoire. Il y aura des débats enflammés, notamment sur cette antenne, bien sûr. Amaury Bucaud, tout autre sujet, je me tourne vers vous. On quitte la politique pour ce que certains appellent des faits divers, d'autres des faits de société, tant il se répète dans notre pays. Ce soir, vous allez nous parler d'une histoire. Je vois que vous venez en plateau avec vos affaires, Amaury. On se dit, on touche le fond, on n'a rien vu de pire. Eh bien, à chaque fois,
alors, Julien,
vous avez du nouveau.
Oui, j'avais envie de dire, ce n'est pas moi qui invente ces histoires.
Non, mais attendez.
Est-ce que
c'est ce que j'ai fait comprendre?
Non, mais vous avez raison de le dire. Ce que je veux juste dire, c'est que c'est des histoires qui existent et on peut ne pas en parler, mais je pense qu'effectivement, ça.
Ah oui, oui, non, mais pardon si j'ai fait comprendre autre chose. Évidemment qu'on est en plein dans le réel et que, justement, avec vos réseaux et vos contacts, vous êtes capable de nous raconter ce réel qui arrive aux quatre coins de notre pays. Ce soir, vous allez nous parler d'une histoire donc hallucinante. Un homme qui a été victime d'ailleurs avec sa compagne de coups de couteau à la sortie d'un train à Mulhouse. Pourquoi ? Parce que le bébé qui était avec eux dans ce train, bébé de 6 mois dont le jeune homme avait la garde, a pleuré pendant le trajet. Avant d'évoquer le détail de cette histoire, on voit, donc ça c'est le jeune homme qui a 26 ans, vous me le confirmez, jeune homme qui a été attaqué, qui était ensanglanté à sa sortie du quai parce qu'il a été donc attaqué par un homme qui n'a pas supporté qu'un bébé pleure dans un train. Nous en sommes là. Un homme extrêmement choqué et surtout blessé, du sang qui coule abondamment sur son visage. Pouvez-vous nous expliquer, on va voir d'autres photos de ses blessures dans un instant, ce qui s'est passé, comment c'est arrivé?
Oui, alors donc tout s'est passé effectivement déjà hier soir, vers 19h30, dans un train qui reliait la ville de Strasbourg à la ville de Bâle en Suisse. Dans ce train, vous avez effectivement un couple d'une quarantaine d'années avec leur nourrisson de 6 mois. Avec eux, il y a cet homme que l'on voit sur les images, qui a 26 ans, qui est un ami du couple et voisin.
Je croyais que c'était d'accord.
Non, c'est pas le conjoint.
Donc ils étaient trois adultes et un bébé.
Exactement. D'accord. Et en fait, durant le trajet, alors le nourrisson, qui est effectivement un bébé, pleure, comme c'est normal, il a faim, voilà, il est fatigué, etc. Le couple s'absente et confie ce nourrisson à leur ami le temps de s'absenter. Et c'est à ce moment-là que, notamment, le bébé se met à pleurer et un passager se manifeste dans le train et dit finalement à cet ami du couple qu'il ne sait pas s'occuper de cet enfant et lui demande de lui confier pour qu'il arrête de pleurer. Évidemment, l'ami du couple lui dit « Bah non, je ne veux pas te confier l'enfant, on m'a donné la garde, je ne te le confie pas ». Le train arrive ensuite à la gare de Mulhouse, il s'arrête et c'est là que ce passager qui s'était manifesté sort un couteau de sa valise, un couteau d'une dizaine de centimètres, et porte plusieurs coups de couteau au visage, effectivement, de cet homme, en le traitant en arabe de PD. Il lui dit « Si je t'égorge, je te tue ». La mère du nourrisson de 6 mois a tenté de s'interposer et elle aussi était blessée à la main.
Elle a pris un coup de couteau à la main en voulant s'interposer.
Exactement.
Une agression pour un bébé qui pleure. On en est là. Je peine moi-même à croire ce que je suis en train de dire. On a vu donc ces images très impressionnantes. Peut-être que vous pouvez nous en dire plus sur la victime. Oui. Dans quel état est ce pauvre jeune homme aujourd'hui?
Un mauvais état. Alors donc, il a 26 ans.
On a vu les cicatrices. On va revoir ses points de suture multiples sur la nuque.
Et je l'ai eu au téléphone. Il est de nationalité algérienne. Alors effectivement, là, il a le visage balafré. Il a eu plus d'une vingtaine, trentaine de points de suture à cause des plaies qu'il a eues au visage, dont une plaie, et vous voyez sur les images, de 15 cm dans la nuque, au point que j'ai un policier qui m'a dit il a probablement voulu le décapiter. Même. C'est le mot que m'a dit ce policier. Et dans sa déposition, ce qu'il dit à la police sur son agresseur, il dit « C'est un clochard, un terroriste. Il a gâché ma vie avec ses cicatrices, avec le regard des gens. J'ai 26 ans, ça va rester toute ma vie, effectivement. Et puis j'ai pu aussi m'entretenir avec la mère du nourrisson de 6 mois, qui décrit un agresseur extrêmement déterminé, qui savait ce qu'il faisait puisqu'il a attendu que le train s'arrête pour porter des coups de couteau. Et elle dit, il voulait le tuer. C'était un acte réfléchi.
Et on revoit à l'écran ce qu'a dit cette femme. Est-ce qu'on en sait plus? Parce que ça nous intéresse bien sûr de savoir un petit peu plus, d'en savoir un peu plus sur le profil de cet agresseur. Est-ce qu'il a d'abord été interpellé?
Oui, alors d'abord, il a été très rapidement interpellé à proximité de la gare. Il était dans un parc et il était en état d'ébriété. Il a été du coup placé dans une cellule de grisement avant d'être placé en garde à vue. Et sur son profil, eh bien, il dit s'appeler Zakaria H. Il serait âgé de 5 à 4 ans. Mais en réalité, on n'est pas tout à fait certain de son identité puisqu'il est en situation irrégulière. Et donc, il n'avait pas de papier sur lui. En langage policier, on dit que c'est un X se disant. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement qui il est. Il serait de nationalité palestinienne ou tunisienne. Et on sait encore de sources policières qu'il se serait vu notifier une obligation de quitter le territoire français le 31 mai 2023, donc il y a à peu près un an, par la préfecture des Pyrénées orientales au QTF, qui manifestement n'avait pas été exécuté là encore.
Ces fameux crimes ou délits commis par des individus irréguliers sous OQTF qui ne devraient jamais avoir lieu. On va évidemment commenter tous ensemble ce fait divers dramatique et cette action, cette volonté de tuer pour des pleurs d'un bébé dans un train. Voilà où nous en sommes en 2004. On en parlera également avec Bilel Debiche. Bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes syndicaliste policier dans le Haut-Rhin et vous connaissez bien sûr donc par définition très bien ce secteur et la façon dont ça se passe sur place. Donc on sera avec vous dans une minute, le temps de faire un rapide point sur l'actu. Il est quasiment 23h30. Maureen Vidal, c'est à vous et on reprend donc tout de suite ce débat.
Emmanuel Macron a reçu les anciens présidents de la République, François Hollande et Nicolas Sarkozy, à l'Élysée. Ce soir, à la sortie de son entrevue, François Hollande est revenu sur l'importance de ne pas altérer l'unité de l'Europe pour soutenir au mieux l'Ukraine. Il a par ailleurs considéré que nous devons tous livrer plus à l'Ukraine et que Vladimir Poutine veut impressionner avec ses menaces nucléaires. La situation plus qu'insoutenable pour le peuple haïtien, dénonce le haut-commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme. Volker Turk a dénoncé depuis le début de l'année 1193 personnes tuées et 692 blessées du fait de la violence des gangs. Des chiffres choquants selon ses mots. Enfin, en football, le Real Madrid s'est qualifié dans la douleur pour les quarts de finale de la Ligue des Champions face au Red Bull Leipzig. Les Madrilènes, victorieux à l'aller 1-0, se sont contentés d'un match nul 1-partout pour se qualifier. Vinicius a ouvert le score peu après l'heure de jeu avant que Willy Orban n'égalise pour les Allemands quelques minutes plus tard. Leipzig aura eu le mérite d'y croire jusqu'au bout, mais la tentative de Dani Olmo a trouvé la barre transversale madrilène.
Merci beaucoup pour toutes ces images et ces infos, Maureen Vidal. On rappelle donc, et on va revoir les images de ce jeune homme ensanglanté, attaqué et quasiment décapité donc par cet homme qui en avait la volonté, en tout cas au regard de cette très très longue cicatrice au niveau de la nuque. Je rappelle que la cause de cette attaque, c'est la frustration d'avoir voyagé aux côtés d'un bébé qui pleurait. Bilel Debiche, rebonsoir. Je rappelle que donc vous êtes syndicaliste policier pour SGP Police dans le Haut-Rhin. Est-ce que vous avez des éléments à apporter sur la façon dont vos collègues ont procédé à cette interpellation? Comment ça s'est passé? Ont-ils été blessés? Ont-ils eu du mal d'ailleurs à interpeller cet homme?
Bonsoir à tous, bonsoir à Monsieur Pasquet, bonsoir à Maury, bonsoir aux personnes sur le plateau. Ils n'ont pas eu relativement du mal à l'interpeller, mais en fait, c'est une mutualisation des moyens entre brigades Et je salue d'ailleurs l'efficacité de tous les collègues qui ont été sur place, à savoir la police secours, les brigades police secours, la BST ainsi que la BAC, qui a finalement interpellé l'individu quelques mètres plus loin de sur la gare. Quoi.
Vous êtes sûr?
Malheureusement,
fort
heureusement, les collègues n'ont pas été blessés, mais on a frôlé le drame. Quoi.
Vous êtes surpris, vous, comme nous, de la violence de cette agression pour un motif aussi futile, des pleurs de bébé?
J'ai envie de vous dire que c'est un petit peu un phénomène de société aujourd'hui dont on est confronté. Déjà, on n'a plus la peur du policier n'existe plus du tout, j'ai envie de vous dire. Et pourquoi un individu déjà en situation irrégulière aurait peur d'un citoyen lambda, quoi.
L'agresseur, Mamory nous l'a rappelé il y a un instant, en situation irrégulière, on ne connaît pas bien son origine puisque c'est seulement du déclaratif palestinien ou tunisien. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire français. C'est un public, si je puis dire, et je mets vraiment l'expression entre guillemets, que vous retrouvez régulièrement dans le département du Haut-Rhin.
On est confronté au quotidien à cela. Comment dire à un individu en situation irrégulière sur notre territoire de quitter ce même territoire légalement en lui notifiant par un simple courrier? J'ai juste envie de vous dire qu'on marche sur la tête. On marche sur la tête. Pour nous, policiers, cela doit être automatique, en fait. Ils devraient être renvoyés sur directement dans leur pays d'origine. Pour une OQTF qui a été notifiée le 31 mai 2023 par le préfet des Pyrénées-Orientales, il me semble. Donc c'est vous dire que de chemin parcouru depuis cette notification, parce que cet individu se trouvait à Perpignan et il se retrouve à Mulhouse. Donc j'ai envie de vous dire, oui, on marche sur la tête. Il est plus qu'urgent d'avoir des accords avec certains pays et j'en appelle à notre gouvernement de parvenir à des accords afin d'extraire ces individus vers leur pays d'origine.
Merci beaucoup, Bilal Debiche, d'avoir répondu à nos questions du syndicat SGP Police pour le Haut-Rhin. C'est vraiment, Céline Pina, l'illustration de la montée des violences gratuites. Il n'y a plus de limites dans le rapport de certains à la frustration. Et puis j'ajoute, évidemment, le fait que l'acte soit commis par une personne irrégulière sur le territoire dont une EQTF a été, dont il a été notifié d'une EQTF, pardon.
J'allais dire ça...
C'est même plus ce qu'on peut dire, en fait.
Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un moment où la vraie question, c'est rappeler quand même que lorsqu'on a essayé d'agir sur les OQTF, les pays type Algérie, Maroc, Tunisie ont hurlé et finalement ne reprennent toujours pas leurs représentants et continuent à nous envoyer énormément de monde. Donc si on ne peut pas expulser les gens, il ne faut pas ouvrir les portes. Et tant qu'on n'aura pas le courage d'aller jusqu'au bout, rien ne changera.
Si la porte est forcée en même temps...
Non, mais de toute façon, la porte est forcée, mais les expulsions ne fonctionnent pas.
Non.
Et notre chantage n'a pas fonctionné. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas stoppé les visas. Il faut à un moment donné aller jusqu'au bout. Donc tant pis, on va continuer à avoir des histoires comme ça. Ce qui est effrayant, c'est quand même le monsieur a demandé à porter le bébé.
Oui.
Qu'est-ce qu'il aurait fait
Je veux même pas y penser.
À s'emparer du bébé.
Et heureusement que ce jeune homme a eu évidemment la présence d'esprit.
Oui,
et le...
mais normalement, il y a quelque chose d'anthropologique qui fait que chez l'être humain, on protège le plus faible. Et l'enfant, c'est notre avenir. Et en théorie, on ne l'agresse pas, on ne l'attaque pas. Tuer un enfant de façon gratuite, c'est un summum de perversion. Quand on a des gens comme ça, c'est effrayant parce que ce que ça dit... Ok, l'incapacité à résister à la frustration, bien sûr, elle est évidente. Et elle montre que ce sont des gens qui n'ont pas grandi, qui n'ont pas évolué, qui ne sont pas des adultes constitués. Mais au-delà de ça, le fait que même les limites humaines, comme le fait qu'on n'agresse pas un bébé, qu'on le protège et que c'est instinctif, quand ces limites-là n'existent pas, c'est vraiment effrayant.
Il est en garde à vue, cet individu, ce soir, on est d'accord.
A priori, oui, puisque la,
y a
général,
pas eu de,
la dégrisement...
Il n'y a pas eu de mise en examen, de non, contrôle judiciaire pour le moment, parce que de là, ce qui se retrouve dans la nature dans
non,
deux jours...
Non, mais ce qui va se passer, c'est que d'abord, il faut qu'il soit, sorte de sa cellule de dégrisement, mais en général, ce n'est pas très long. Et ensuite, il est placé en garde à vue. Et ensuite, après la garde à vue, il y a une mise en examen. Donc là, on n'est pas encore dans le cadre de la mise en examen. On
d'accord, mais ça, il faudra encore... vraiment qu'on soit tenu au courant et que vous nous tenez au courant.
Parce j'ai envoyé un message.
Moi, je me souviens de l'histoire de l'homme que vous nous aviez raconté il y a quelques semaines, qui est entré dans une maternelle avec deux lames, qui a été mis en garde à vue et qu'ensuite a été remis dans la nature sous contrôle judiciaire. Si on fait la même chose avec cet homme-là.
Là, c'est beaucoup plus grave quand même. Hein,
c'est beaucoup plus grave. Il voulait s'attaquer à des enfants avec des lames dans les poches. On était à peu près. Il n'était pas passé à l'acte parce que la police était intervenue avant, mais.
Et alors
le dessin était le même. Hein.
Pour rebondir sur ce qu'a dit Céline Pina, on a demandé, enfin les policiers ont demandé à la victime pourquoi il pensait qu'il s'était fait attaquer comme ça. Et lui a dit, bah, je pense que l'homme était jaloux, entre guillemets, de me voir.
Jaloux.
Est-ce que parce que lui
de
aussi,
le voir avec un enfant.
Ben bah, voilà, est-ce qu'ils se sont dit, il est maghrébin comme moi, et du coup, il est avec un enfant, il a l'air heureux, je vais l'embêter, je sais pas. Lui, c'est comme ça qu'il l'a expliqué aux policiers. Et ce qu'il explique aux policiers, ce qui est très étonnant, et c'est vrai, c'est que cet homme, il a plus de 50 ans d'agresseur. Et c'est quand même extrêmement rare de voir quelqu'un qui a plus de 50 ans s'en prendre aussi spontanément avec un couteau. C'est quand même souvent
c'est
des
faits. C'est vrai que c'est des profils beaucoup plus jeunes.
Voilà, de 20-30 ans.
Johan, oui. C'est ça la décivilisation ?
Non, mais au-delà de l'atrocité de ce qui s'est passé, ce qui me semble être le plus important, c'est qu'il s'agissait d'un agresseur, d'une personne qui était visée par une obligation de quitter le territoire français.
Épisode 1465.
On dit toujours le risque zéro n'existe pas. Évidemment, le risque zéro n'existe pas. Il y aura toujours des crimes et des délits dans ce pays. Mais si on arrivait à maîtriser nos frontières, si on arrivait à décider de qui ou qui ne peut pas être chez nous en France, on réduirait déjà de manière assez importante la délinquance et la criminalité. Parce que les faits qu'on dénombre sur ce plateau jour après jour, semaine après semaine, des faits absolument atroces liés à des personnes qui ne devraient pas être en France, eh bien, si on éliminait déjà l'ensemble de ces faits-là, on aurait par exemple économisé ces blessures, cette souffrance à vie à ce jeune homme. C'est un exemple parmi d'autres, mais ça semble être le béaba, surtout quand on a un ministre de l'Intérieur et un président de la République qui ont fait un lien direct entre une partie de l'immigration, je dis bien une partie de l'immigration, et la délinquance. Donc quand on fait ces constats-là, refuser de se battre véritablement pour maîtriser nos frontières et contrôler cette immigration, eh bien, quelque part, c'est de la non-assistance à des personnes en danger.
Justement, avant de vous entendre de l'autre côté de la table, à l'aune de cette affaire et du fait donc qu'une personne irrégulière a commis quasiment l'irréparable aujourd'hui encore, sachez que dans un autre département, celui des Alpes-Maritimes, le préfet a décidé de mettre un coup de pied, comme on dit, dans la fourmilière. Il publie les statistiques de la part des étrangers dans la délinquance dans son département. Des chiffres qui sont assez édifiants. Regardez ce reportage de Franck Trévieux et Clotilde Payet et on continue la discussion avec vous trois. À tout de suite. C'est parti, regardez.
Nice et Cannes, deux villes touchées par la délinquance étrangère. Pour plus de la moitié des cas dans les deux grandes agglomérations, des individus de nationalité étrangère ont été mis en cause. À Nice, 54% de la délinquance de voie publique est le fait d'étrangers, 53% à Cannes. D'autres précisions indiquent que 82% des vols à la tire sont le fait d'étrangers dans la ville de Nice. Une surreprésentation face à laquelle le préfet souhaite agir fermement.
Pour combattre cette criminalité, 260 délinquants étrangers ont été expulsés depuis 2023, conformément aux instructions de Gérald Darmanin. Nous intensifierons nos efforts dans les prochains mois. On respecte les lois de la République quand on vit en France.
Une réaction très appréciée par les habitants de ces grandes villes qui disent subir cette délinquance au quotidien.
Ça fait des années que ça dure et que c'est insoutenable. Les Niçois n'en peuvent plus, les Français n'en peuvent plus. Et effectivement, il faut que le gouvernement fasse quelque chose.
Ces étrangers ne feraient pas ces délits dans leur propre pays. Parce que là, dans leur propre pays, ils seraient sanctionnés de tout, quoi. Ici en France, c'est open bar.
Du côté de la police, cette transparence du préfet est une bonne nouvelle. Ces expulsions faciliteraient leur travail au quotidien.
Ça évite à nos collègues de réinterpeller plusieurs fois les mêmes personnes aussi. Donc, et puis c'est du bon sens, je trouve. Quand on est étranger en situation irrégulière dans un pays, je trouve logique de retourner à son pays d'origine.
Des expulsions souvent compliquées, car certains pays d'origine refusent de reprendre leurs ressortissants.
Commentaire sur la publication de ces chiffres. Je rappelle donc 82% de vols à la tire à Nice sont commis par des étrangers. Délinquance sur la voie publique et le fer respectivement de 53 et 54% d'étrangers. On va voir le carton hein, qui va s'afficher. Merci beaucoup à Cannes et à Nice. J'ai envoyé rapidement ce sujet parce que je trouve que c'est assez transversal hein, avec l'affaire dont on parlait grâce à Amaury il y a une minute. Qui veut commencer? Oui, Jean-Claude.
Deux mots. Certains s'étonnent après cela, après les images que nous venons de voir, qui ne sont pas les premières, mais ce qui s'est passé dans l'Est est quand même le plus dramatique et le plus insupportable. Mais certains s'étonnent qu'en effet, le Rassemblement national ait plus de 10 points, 12 points peut-être d'avance sur les partis de la majorité.
Et pourtant, est-ce que c'est si le Rassemblement national arrivait au pouvoir, les OQTF seraient mieux respectés?
Alors ça, c'est un autre débat qu'on pourra avoir un autre jour.
Jean-Pierre Meloni semble prouver que non.
Je n'en suis évidemment pas sûr. Pourquoi? Parce que c'est quand même très compliqué d'obtenir ces fameux visas des pays, notamment du Maghreb. Je lisais l'autre jour, alors c'est pas la cause unique, mais ça en fait partie. Nous importons tous nos engrais qui feraient que notre agriculture française serait incapable de produire. Tous nos engrais, que ce soit l'azote, que ce soit les phosphates, viennent des pays du Maghreb. Mmh. Nous avons des liens anciens et étroits avec ces pays qui font qu'on a beaucoup de mal à obtenir la mise en place d'une politique qui, à l'évidence, devrait être une expulsion automatique. Ils devraient
mais
déjà
c'est
être dans l'avion,
sauf qu'on n'y arrive
pas ce soir, mais demain, ils devraient déjà être dans l'avion pour la Tunisie, demain.
On ne sait même pas d'où il vient.
Oui,
c'est du déclaratif.
Eh bien,
on est incapable de savoir d'où vient ce monsieur.
En attendant, il faudrait avoir des centres fermés, des places dans les prisons. Nous n'avons ni l'un ni l'autre en nombre suffisant. Or, nous sommes confrontés, c'est une évidence de dire ça, je suis un peu las de le répéter, nous sommes confrontés à un ensauvagement, à une addition de faits divers qui sont plus insupportables les uns que les autres. Et en face, on a du mal à reconnaître que tout cela est connexe et issu de l'immigration hors de contrôle.
Bien sûr. Amaury, très vite, avant que Jean-Sébastien et Tatiana concluent.
Non, mais je vois que les étrangers sont très représentés parmi les auteurs. Mais je voulais dire aussi, comme cette histoire du train, que les étrangers sont aussi
victimes bien sûr.
De cette insécurité.
Bien sûr, et on l'a
tout
vu.
Le monde est victime de cette insécurité, il faut le rappeler quand même.
Jean-Sébastien.
Non, mais bien sûr, moi je crois que c'est très utile de connaître la vérité des chiffres. Donc le préfet des Alpes-Maritimes le fait. Moi je ne comprends pas pourquoi les derniers chiffres que nous ayons en France sur les attaques au couteau datent, me semble-t-il,
2017.
De 2000. Voilà, exactement.
Ça fait 7 ans qu'on a pas
en 2019. Donc,
on demande pourquoi.
On sait.
C'est 120 attaques au couteau par jour, je crois, hein,
oui,
sur 2017.
À l'époque. Mais on sait, a priori, il y a d'autres pays qui sont un peu plus actifs, comme quoi il est quand même possible de compiler des statistiques de manière plus rapide. Le Royaume-Uni, notamment, a connu une explosion, justement, aussi des attaques au couteau. Donc, je crois que le gouvernement.
On va voir d'ailleurs les
devoir...
images de ce jeune homme, parce que je veux que les téléspectateurs se rendent bien compte de l'ampleur de l'attaque sur ce jeune
justement,
homme.
Justement, parce que les attaques au couteau, c'est une attaque qui est particulièrement traumatisante, déjà particulièrement dangereuse. Il est quasi impossible de résister à une personne qui vous attaque au couteau. Et ce sont des attaques particulièrement traumatisantes, a fortiori si vous êtes avec des enfants. Donc je pense que je ne comprends pas pourquoi dans une démocratie, ces chiffres-là ne sont pas connus. Ça me paraît inexplicable. Et dernière chose, Amaury avait raison de souligner que bien évidemment, soit des étrangers, soit des Français qui peuvent être d'origine étrangère sont aussi victimes, et que ça n'est pas parce qu'il y a une surreprésentation des étrangers parmi les délinquants. Évidemment que tous les étrangers seraient des délinquants.
Et justement, cette affaire de Mulhouse, elle nous permet de le dire clairement et objectivement, parce que expulser les étrangers qui ne respectent pas nos règles, j'ai l'impression que les premiers à y être favorables, ce seraient les étrangers eux-mêmes qui vivent normalement, sereinement et conformément aux règles dans notre pays, qui n'en peuvent plus d'être confondus, amalgamés avec des délinquants, et c'est très légitime de leur part. Et cette affaire, donc c'est un Algérien qui est attaqué au couteau.
Mais le couple aussi est Algérien.
Et le couple est Algérien, donc ce sont des gens qui allaient tranquillement prendre le train, qui sont d'origine étrangère et qui ont été agressés par un homme en situation irrégulière. Et le problème, c'est que si on n'expulse pas, si on ne fait pas le bon grain de livret quand on ne trie pas le bon grain de livret, et bien on se retrouve avec une situation comme celle-là. Et les premiers qui pourraient profiter du fait qu'on fasse respecter les règles aux gens, ce seraient les étrangers eux-mêmes.
Bon, les Français étaient majoritairement pour la loi immigration
aussi,
qui a été votée, et je rappelle que là, les mesures qui sont prises, en l'occurrence les OQTF qui sont délivrées, sont prises en vertu justement de cette loi immigration. Parce que la loi immigration, justement, permet de délivrer des OQTF pour des délinquants en situation illégale ou irrégulière.
Donc ça, c'est quand même la partie qui n'avait pas été retoquée justement dans la loi immigration, première chose. Deuxième chose, restera toujours malheureusement en suspens la question des laissez-passer consulaires, voilà la fameuse variable d'ajustement qui pour l'instant malheureusement n'est pas ajustable
le
pour
QTF
nous.
Le QTF ne
ça,
suffit
c'est
pas,
un
hélas.
Vrai souci, malheureusement. Et puis et donc c'est vrai qu'il y a des mesures en effet peut-être envisagées pour pouvoir les rendre effectives parce que tant qu'on n'aura pas réglé ce problème, on n'aura rien réglé en réalité. Et puis, troisième chose, pour revenir à ce que vous évoquiez tout à l'heure, Amaury, cette histoire absolument terrifiante, moi, ça me faisait penser, en faisant lien aussi avec ce que Céline disait sur « on ne touche pas un enfant », à l'histoire du tueur du lac d'Annecy.
C'est vrai.
On était pris, souvenez-vous, à des enfants,
qui
avaient poignardé quatre enfants très très grièvement blessés. Et pareil,
ce jeune homme héros, sac à dos.
Je me dis comment on peut aller avec un couteau dans un parc pour enfants et s'en prendre à des bébés dans des poussettes. Mmh. Et donc ça pose une vraie question, en effet, sur l'inhumanité, les limites de cette inhumanité. Et quand on voit en effet ces cicatrices, on se dit qu'il a vraiment essayé de le décapiter et même peut-être de lui crever les yeux parce que remarquez les cicatrices qui partent
c'est
de
vrai.
L'œil.
C'est vrai.
Donc c'est absolument terrifiant. Et juste dernière chose, pensez pour cette mère qui portait ce bébé dans les mains, qui s'est fait poignarder la main, heureusement qu'elle n'a pas touché le bébé.
Le réflexe évidemment
le drame,
de vouloir protéger
aurait pu
son enfant.
Être absolument
et on rappelle
terrifiant.
Que ce monsieur a demandé dans un premier temps donc, d'avoir lui-même le bébé dans les bras. Et Dieu sait ce qui aurait pu se passer. Terrible histoire sur laquelle on reviendra, j'en suis sûr, notamment dans la matinale de Romain Desarbres à partir de 6h du matin. Merci à tous les six. Merci à Jade Roger, Coralie Deleplace, Martin Mazur qui ont préparé cette émission. L'édition de la nuit avec Simon Guilin dans une poignée de minutes. Je vous remercie de nous avoir suivis. À demain pour Soir Info. Bonne nuit.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.